E-Radio. En duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis.
David Cormand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur E-Radio à l'occasion de la dernière session plénière ici au Parlement européen à Strasbourg avant les élections européennes prochaines. Vous êtes député européen français, David Cormand, membre du groupe des Verts, aussi membre de la commission parlementaire au marché intérieur et à la protection des consommateurs. Vous étiez notamment rapporteur pour avis sur l'un des textes débattus et votés cette semaine en plénière, c'est la révision des règles d'éco-conception sur les produits durables en Europe. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi on parle, à qui on s'adresse quand on dit le mot éco-conception des produits durables ?
On s'adresse aux fabricants. C'est-à-dire que là, c'est un des textes, celui dont on parle, l'éco-conception, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle un paquet législatif, c'est-à-dire plusieurs textes, qui se complètent. Quand j'ai été élu en 2019, j'avais souhaité travailler sur la question de l'obsolescence prématurée, la réparation, la lutte contre le gaspillage, le réusage, etc., etc. Et du coup, j'ai eu un rapport d'initiative, dont j'étais rapporteur, donc un rapport d'initiative, ça n'a pas force de loi, c'est la position du Parlement, où on avait introduit toutes ces idées, notamment d'éco-conception. Et comme la Commission a fait le Green Deal, enfin le pacte vert, dans ce pacte vert, il y a un paquet de 4 textes qui donc se complètent. Il y a un premier texte qui a été « Donner du pouvoir aux consommateurs »,« Empowering », en anglais, « Empowering Consumers », donc là c'est plutôt les distributeurs. C'est donner du pouvoir aux consommateurs par rapport aux distributeurs. Il y a un autre texte sur le droit à la réparation, Right to Repair. Il y a un autre texte qu'on n'a pas le temps de finir, qui sont les Green Claims, les allégations vertes, la question de la publicité. Et là, on parle d'éco-design. Donc là, c'est ce qui s'adresse aux fabricants, aux firmes. Et donc là, dans ce texte, on a introduit un certain nombre de règlements qui visent à ce que les objets durent plus longtemps, soient davantage réparables. On a rendu illégale la pratique de l'obsolescence prématurée. Et on a aussi légiféré sur la lutte contre le gaspillage avec l'interdiction de la destruction des vêtements et des chaussures.
Alors, sur ce texte précisément, il inclut notamment l'interdiction en Europe de détruire les invendus, notamment dans le secteur du textile. C'est un grand changement, selon vous, pour nos économies, nos manières de consommer ?
Alors, c'est surtout un grand changement sur le modèle économique de ce qu'on appelle la fast fashion, tout ce qui est textile, tout ce qui est vêtements, qui, en fait, se construit sur le modèle dominant, le modèle par défaut, c'est le gaspillage. En fait, y compris, ce que je vous déconseille de faire, parce que c'est vraiment absurde de se faire livrer des vêtements chez soi, alors qu'il y a des magasins qui essaient de survivre. Bref, vous prenez les 3 tailles pour être sûr, vous renvoyez, dans la plupart des cas, c'est jeté. Parce que ça coûterait plus cher de reconditionner. Je parle pour les... pas évidemment pas pour les grandes marques, mais pour ce qui fait le plus de volume, ça m'aide. Donc ça, c'est plus possible de les détruire. Pareil pour les textiles, dont les chaussures. C'est d'ailleurs été une bataille de maintenir les chaussures dans l'interdiction de la destruction. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est changer le business model de ces entreprises qui fabriquent du textile, le plus souvent dans des conditions atroces. D'ailleurs, on a voté aussi une loi aujourd'hui sur la due diligence, sur
le devoir de vigilance,
pour justement une autre texte contre le travail forcé, qui concerne notamment le secteur du textile, pour justement en finir avec ces entreprises occidentales. On parle de Nike, on parle de Zara, qui font fabriquer et d'autres, nombreuses, qui font fabriquer dans des conditions atroces leurs vêtements, et encore plus pour les marques type Shein, etc., où là, c'est vraiment du... Donc ça, ce qu'on veut faire, l'objectif, c'est de rendre obsolète le business model qui s'appuie sur le fait de n'avoir rien à faire des matières premières, des conditions de travail, des objets. Parce que ces objets qu'on jette, en fait, ils sont jetés, mais c'est vous qui les payez. C'est qu'en fait, dans le prix de vente, il y a de calculer le fait qu'il y a une quantité de vêtements qui ne serviront à rien ni personne. Donc en fait, c'est aussi du pouvoir d'achat pour les gens dont on parle. Donc c'est beaucoup de pollution, beaucoup de déchets, beaucoup de souffrance au travail et beaucoup de perte de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc ça, c'est ça l'idée.
Que deviennent aujourd'hui, pour l'instant, avant la mise en application de ce texte, que deviennent les invendus aujourd'hui en Europe ? Est-ce qu'on le sait, ces stocks de vêtements ?
Ils ne les donnent pas. Ils ne les donnent pas, ça ne se recycle pas, donc ils les jettent.
Puisque l'Union européenne a aussi interdit le transfert de déchets hors de l'UE.
Mais je ne sais pas ce qu'ils en font, mais ils jettent. Ou ça finit à l'incinérateur, ou ça finit, je sais pas quoi, enfin, c'est jeté. Ça sort de la chaîne d'usage.
Parce que je me suis renseigné, il y a une difficulté pour l'instant à connaître précisément les quantités d'invendus présentes en Europe aujourd'hui. Est-ce que ce texte ou l'Union européenne prend ça en compte ou prévoit d'y remédier? Parce que sinon, ce sera compliqué finalement d'interdire efficacement la destruction des invendus si on n'a pas une certaine idée de la mesure.
Ça, vous touchez du doigt le problème. En fait, vous avez deux choses. Vous avez voté une loi, ensuite il y a ce qu'on appelle l'implémenter, enfin la mettre en œuvre. Donc là, ils ont touché un autre problème qui est celui, d'une façon large, de ce qu'on appelle les services publics. Services publics, c'est notamment les douanes, c'est les contrôles, c'est des personnes qui sont qualifiées pour investiguer, pour faire en sorte que les lois soient respectées. Donc y compris, hein, quand on s'en prend beaucoup au service public, au fait de ne pas avoir des personnes qui font ce travail-là, ben on s'en prend aussi à nos propres droits, hein, et pas seulement nos droits environnementaux. Donc là, il y a un sujet, effectivement, et c'est pas l'Europe. L'Europe, elle a des services de hauts fonctionnaires, mais elle n'a pas tellement de services. Les douanes, ça reste national. Hein. Donc elle n'a pas tant de services que ça pour faire en sorte d'appliquer les lois qui sont édictées ici. La plupart du temps, c'est du ressort des États. Donc là, il faudra veiller à ce qu'effectivement ces lois soient suivies des faits. Mais ça, nous, en tant que législateurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on dit c'est interdit, faire en sorte que ça soit vraiment pas fait, c'est pas au Parlement européen qu'on peut le gérer, ça.
La Commission européenne a bien un système de contrôle, par exemple, pour, dans le cas de la PAC.
Mais elle a un système de contrôle, mais qui est de plus en plus lointain, d'ailleurs, avec des drones. C'est assez arbitraire, d'ailleurs. Les agriculteurs, parfois, s'en plaignent, parce que ça repose sur très peu de personnes. Enfin, c'est un marché de 550 millions de personnes, avec énormément de marchandises qui rentrent dans l'Union européenne. Donc, c'est pas les quelques moyens de la Commission. Théoriquement, elle a des moyens, mais... C'est en fait, vous savez, le nombre de gens disponibles pour le faire, ça c'est... Et il y a beaucoup de mesures de contrôle qui sont déléguées aux États.
Ce texte de révision sur l'éco-conception des produits durables a été adopté à 455 voix pour, 99 voix contre. Quelles étaient les critiques ou les craintes face à ce texte ?
Souvent, j'ai même pas regardé qui a voté contre, mais souvent c'est côté droite, hein, extrême droite surtout. C'est pas trop de législation, pas trop embêter les entreprises, ce qui est absurde, parce que c'est pas les entreprises européennes là que ça va embêter. C'est plutôt les entreprises qui bénéficient du marché européen, mais qui fabriquent à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Donc, y compris cet argument, entre guillemets, de droite, de dire « mais nous, on est pro-business, on est pour les PME, on est pour les entreprises », en fait, refuser ces législations, c'est massacrer nos PME. Parce que nos PME en France, notamment dans le domaine en France, en Europe, notamment dans le domaine du textile, c'est sur le qualitatif qu'elles s'en sortent. Donc elles ne sont pas concernées par ces règles-là.
La fast fashion, elle n'est pas européenne.
Bah, elle est peu européenne. Si vous voulez faire un t-shirt à 2,50 €, c'est pas de salariés qui peuvent le fabriquer. Il y a des différences de salaire, hein, entre l'Europe de l'Est, l'Europe plus de l'Ouest, enfin, occidentale. Mais la vérité, c'est que ces règles ne pénalise pas, en tout cas, moi, c'est ce que j'affirme politiquement, c'est qu'elle ne pénalise pas ou peu les entreprises européennes. Elle protège un marché, donc c'est des règles de souveraineté, au fond. Elle protège un marché pour qu'elle soit, ce marché soit accessible au qualitatif. Or, si c'est dans une entreprise à l'extérieur de l'Europe qui sont qualitatives, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais nous, les entreprises qui restent, notamment dans le domaine des chaussures et du textile, c'est plutôt du qualitatif. Donc c'est quand on aime nos entreprises et nos PME européennes, quand on aime nos ventes de détail européennes, etc., il n'y a pas tellement de raisons de s'opposer à ce texte.
Vous, David Cormand, vous êtes satisfait du texte dans son état actuel ?
Non. Enfin, oui, je l'ai voté. Mais je pense qu'il fallait qu'il aille plus loin, parce qu'il faut qu'on aille plus vite. Je pense, je vous parlais notamment de la protection des petits commerces. C'est un texte qui... à un angle mort sur l'achat sur les plateformes. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Enfin, parce qu'en fait, c'est une concurrence déloyale. Hein. Ces plateformes, je vous parlais de tout ce qui est achat en ligne, hein. C'est une concurrence déloyale par rapport à nos commerces, c'est-à-dire pour nos centres-villes, nos centres-bourgs, où c'est de plus en plus compliqué.
Le fait de se faire livrer plutôt que d'aller acheter directement.
Et en plus, là, il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes, qui sont plus importantes quand il y a un magasin in the real life, IRL, comme on dit, que quand c'est en ligne. Donc ça, c'est un des angles morts, mais il y a une espèce de totem, d'une fausse modernité, où quand ça passe par Internet, c'est forcément formidable. Moi, j'ai rien contre le progrès et Internet, mais est-ce que c'est un progrès de faire fermer nos boutiques et de donner des monopoles de fait à des plateformes comme Amazon ou etc. J'en suis pas sûr en vérité.
Alors, ce texte distingue différentes catégories de produits qui ne seront par exemple pas toutes concernées en même temps par ces règles d'éco-conception. Pourquoi cette distinction entre
C'est les deals, j'ai plus en tête les différences, mais en fait, c'est les compromis. À la fin, vous avez un peu, entre guillemets, les lobbies qui se font entendre, qui disent « Ah ben nous, ça va être trop dur, il nous faut du temps, donc il y a des trucs, c'est 2 ans, 3 ans. » Et puis, pour être juste, il y a aussi, c'est compliqué pour nous, parlementaires, comment dire, d'établir un protocole et un tableau de bonnes pratiques pour tous les objets. Parce qu'il y en a plein. On ne peut pas traiter, en termes de durabilité, là, de la même façon, une cravate qu'un téléphone, qu'une voiture, enfin, des voitures, mais qu'une table, qu'un porte-manteau, que sais-je, ou une fenêtre. Bon. Donc en fait, c'est assez logique qu'il y ait une déclinaison après par type de produit qui soit fait par les services de la Commission. C'est pas nous, avec nos petits doigts, nos petits stylos parlementaires, qu'allons voir dans le détail technique telle ou telle disposition. Donc nous, on donne un cadre général et on va voir comment c'est décliné produit par produit, délai par délai. Mais l'initiative, elle est malgré tout lancée. Donc c'est, ça, c'est positif.
Pour citer la rapporteure de ce texte, l'eurodéputée italienne Alessandra Moretti, qui a déclaré « Il est temps de mettre fin au modèle produire, utiliser, jeter ». Est-ce que cette évolution, voire même cette révolution de nos économies et de nos modes de consommation va être amenée par ce texte européen, par ce cadre législatif ?
C'est même pas produire, utiliser, jeter, c'est extraire, produire, utiliser, jeter, et ça finit dans les océans à la fin. Parce que c'est pas jeter. En fait, quand on jette quelque chose, il disparaît pas. Soit on le brûle et c'est de la dioxine, etc. Soit on l'enfouit. Et c'est pas parce que c'est enfoui qu'on le voit plus que ça n'existe pas. Soit ça va dans la mer, ça va dans la nature, ça va... Donc en fait, le cadre, il est plus large que ça. Donc oui, il faut arrêter, il faut sortir de la société. Moi, j'appelle ça la société de consommation. C'est un petit jeu de mots, société de consommation. La société de consommation, c'est une société de consommation. On consomme à la fois la planète, les objets, nos porte-monnaies, avec un modèle, effectivement, qui est linéaire. Hein, c'est ça. Et donc, on a un problème extractiviste, où il faut sortir de la société extractiviste, parce que ça a des impacts sur l'environnement, sur la biodiversité, qui sont déterminants, et tout ce qui s'ensuit. Les moyens de production qui sont pas toujours... ont toujours un impact, même si c'est le mieux possible, il y a toujours un impact. Et la surconsommation, avec ce que ça renvoie comme imaginaire pour les gens, ça génère de la frustration, donc ça pose la question de la publicité, et puis la question en queue des déchets. Donc c'est la question de linéaire, par opposition à circulaire, où la promesse de l'économie circulaire, c'est qu'en fait il n'y a plus d'extractivisme, puisque votre matière première, c'est un déchet produit. Moi, j'alerte sur le fait que sur le papier, c'est évidemment ce vers quoi il faut tendre, mais il n'y a pas de baguette magique. On n'arrivera jamais à une économie parfaitement circulaire qui permettrait de continuer à avoir une société de croissance de consommation. Donc là, il y a la question de la sobriété qui se pose. Et donc, au-delà de ces réglementations, il y a l'idée que est-ce qu'on a besoin d'autant de vêtements que la quantité qu'on achète ? Est-ce qu'on a besoin d'autant en acheter des neufs ? Est-ce qu'on peut aussi... les friperies, les trucs, c'est pas plus idiot. Les matériaux avec lesquels on les fabrique, il n'y a pas de formule magique. Hein. Vous savez, même les polaires qui sont faites à partir de plastique entre guillemets recyclé, ça crée des microplastiques qui ne sont pas top pour du tout l'environnement. Hein. Donc, y compris ce modèle qu'on pourrait dire circulaire. Hein. Ah, c'est formidable, je prends ma petite bouteille de plastique et ça se transforme en pull. En fait, c'est pas si idyllique que ça. Donc, au-delà de ces législations-là, il y a le fait de sortir d'une société de surconsommation.
Et en attendant de sortir de cette linéarité de nos économies, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres textes législatifs nécessaires ? Ou est-ce que, selon vous, ça y est, le cadre législatif est là, on en est au stade de la bonne application ?
En fait, ce paquet législatif n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ. Parce qu'il y avait très peu de textes, il en existait, hein, mais qui étaient quand même très allusifs, etc. Donc, on est au début de la transformation... Encore une fois, d'une société de consommation, d'une économie linéaire, d'un rapport à la consommation, un rapport d'émancipation à la consommation, on est au début, de mon point de vue, d'un processus. Donc c'est une base qui est solide, mais il y a des angles morts sur la publicité notamment. On n'a pas encore réussi à avoir une législation opérante sur la publicité. Or, je pense que c'est un des nerfs de la guerre, hein, la publicité, surtout maintenant avec les modèles économiques des GAFAM qui procèdent à la captation et l'exploitation de nos données personnelles pour la transformer en publicité ciblée. Et on est complètement dépendant. Hein. Il y a quelques années, on parlait des quelques minutes de pub sur TF1. C'était le temps de cerveau disponible de M. Lelay, ancien PDG de TF1, qui disait « Mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola ». Là, vous avez des moyennes d'utilisation des réseaux sociaux de 6 heures par jour en Occident, ce qui est énorme. Et en France, certains adolescents et jeunes sont enfants sont sur 10 heures par jour. Le fait de scroller, pourquoi je fais le lien avec la publicité, c'est que ça ne sert, ça s'appelle l'économie de l'attention, ça ne sert qu'à capter votre attention pour comprendre en gros ce que vous pensez. Et pourquoi on veut comprendre ce que vous pensez ? Pour vous vendre des trucs. Et donc ça, à un moment, il y a une législation, hein, DSA, DMA, enfin, c'est des textes européens sur les services numériques, pardon, je parle trop en acronyme, mais qui ont tendance notamment à restreindre la publicité ciblée, mais on est au début de cette guerre contre cette guerre qui est une sorte de capitalisme au cube, de capitalisme productiviste au cube, qui a une puissance de pénétration, si j'ose dire, dans nos esprits et dans nos modes de vie qu'on n'a jamais connus. C'est autant révolutionnaire que la révolution industrielle.
Et dans ce contexte, comment vous envisagez, par exemple, la prochaine mandature quand on se prépare à un potentiel scénario d'un Parlement européen plus orienté à droite, quand on sait que, vous disiez plus tôt, c'est par exemple les partis de droite qui ont voté contre ce texte sur l'éco-conception?
D'abord, il y a plusieurs choses. Un, le pire est jamais sûr. Moi, je suis un peu fatigué de cette petite musique de « on nous promet la catastrophe », etc. On nous promettait la catastrophe en Espagne, c'est pas la catastrophe qui est arrivée, enfin, en tout cas c'est pas l'extrême droite qui a gagné. On nous promettait la catastrophe en Pologne, c'est pas la catastrophe qui a eu lieu, donc je sais qu'il y a d'autres pays, où il y a d'autres exemples, on voit que... Mais en fait, le pire est jamais sûr, donc on n'est pas obligé non plus de se morfondre dans une espèce de fatalité, parce que ça prépare au fond les esprits, ça démobilise les gens qui veulent autre chose. Donc, les gens qui vont nous écouter, je leur dis en fait le 9 juin, c'est vous qui décidez. Personne d'autre. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité, il y a des gens qui vont voter à l'extrême droite, à force de dire qu'ils vont gagner, ces gens-là, ils sont en train de se mobiliser, et les autres, ils sont en train de se démobiliser. Donc, moi, je pense que les idées progressistes, notamment écologistes, elles peuvent gagner le 9 juin si les gens qui croient en ces idées vont voter et font aller voter. Et ensuite, on verra. Parce qu'il y a des arguments. Alors, pour l'extrême droite, il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais y compris à droite, où, je disais un peu tout à l'heure, si on est sincère dans la volonté de protéger l'économie européenne, j'avais compris que c'était une des préoccupations, en tout cas qu'il revendique, le PPE, en fait, ces réglementations ne pénalisent pas notre économie. Je dirais même que ces réglementations sont la condition de survie de nos emplois. Sans ces conditions et ces réglementations qui vont vers le mieux-disant, nous allons perdre tous nos emplois industriels. C'est la leçon des 30 dernières années. L'alignement par le bas des conditions de travail, des standards de production, c'est la garantie d'anéantir notre économie réelle européenne. Donc, à un moment, il faut prendre acte des impasses qu'on a connues. Et donc, il faut, au contraire, si on veut une économie solide, résiliente, endogène, qui repose sur les limites planétaires européennes, sur les savoir-faire européens qui existent, il faut des standards élevés de qualité de production et j'ai envie de dire de consommation. C'est ça qui fera qu'on aura un leadership économique avec des emplois non délocalisables. La réparation, c'est pas délocalisable. Des textiles de qualité qu'on jette pas, qu'on réutilise, qu'on met dans des friperies, c'est pas délocalisable, etc. etc. Donc, des chaussures de qualité qu'on ressemelle avec, on n'envoie pas un cordonnier en Chine, on les échange. Donc c'est un modèle économique qui est très intense en emploi et très doux pour la planète. Donc voilà, on les convaincra.
Et ces sujets de transition dans nos modes de consommation vers, pourquoi pas, une économie plus circulaire, ça va rester des priorités pour vous? Parce que je rappelle que vous êtes candidat à la prochaine...
Oui, mais bien sûr, moi c'est ce qui m'intéressait quand j'ai été élu, donc j'ai été élu pour la première fois il y a 5 ans. C'est le sujet qui m'intéressait, la lutte contre l'obsolescence prématurée, la question d'avoir... En fait, de défendre l'intérêt des consommatrices et des consommateurs. C'est une question qui est un des affluents de l'écologie politique, hein, de dire en fait, il faut changer le rapport à la consommation. Très souvent... L'intérêt du consommateur, c'est le même que l'intérêt de la planète et du salarié. Le problème, c'est qu'on a déphasé l'intérêt du citoyen consommateur, des limites planétaires et des conditions de travail. Et ça, notamment grâce à la publicité, où la publicité nous rend présentable un modèle économique qui anéantit les droits sociaux et la nature. Donc il faut remettre en phase nos modes de consommation, et ça ne veut, veut pas dire renoncer à plein de choses. Réaligner nos modes de consommation, notre rapport à la consommation, à nos besoins, à ce qu'on veut comme qualité de vie, de planète, d'environnement et d'emploi. Il faut réaligner les deux. C'est dans l'histoire de la gauche, l'acteur principal, c'était le producteur, c'était l'ouvrier. Et effectivement, il compte. Mais il y a un autre acteur, et d'ailleurs on peut être les deux à la fois, qui est l'acteur citoyen-consommateur. Donc il faut faire rentrer la démocratie dans l'usine, et il faut faire rentrer dans la tête du consommateur les impacts salariés, enfin sociaux et environnementaux. En fait, il faut réaligner tout ça.
Merci beaucoup, David Cormon, pour vos explications sur ce nouveau texte adopté cette semaine au Parlement européen sur l'éco-conception des produits durables. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
Euradio, en duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis.